puisque ça tombe bien, Thomas est médiateur scientifique, il s'appelle aussi Vaga Science, si j'ai bien tout compris.
Tout à fait.
Et donc, il y a de plus en plus d'actions de médiation autour de la recherche universitaire. On peut citer, par exemple, ma thèse en 180 secondes, la fête de la science, Speed of Science, et j'en passe, parce qu'il y en a encore beaucoup d'autres, j'imagine. L'université de Poitiers ne fait pas exception, et le laboratoire EBI, Écologie et Biologie des Interactions, avait lancé un appel à projet de médiation scientifique pour l'année 2023, financé avec la célèbre SVEC, Contribution Vie Étudiante et de Campus. Des tables rondes sont organisées au mois de novembre et tu en seras l'animateur, le médiateur, si j'ai bien compris encore une fois.
Tout à fait, on est bon.
Alors, question toute simple parce que les regards interloqués sont nombreux quand on parle de médiation scientifique en dehors de l'université. Qu'est-ce que c'est ?
Alors la médiation scientifique, on va dire que ça va essayer de rendre accessible une connaissance scientifique, donc souvent abrupte, souvent vraiment pas facile à comprendre, complexe, la rendre accessible au plus grand nombre, on va dire, afin que chacun puisse en connaître eh bien, les enjeux, les tenants, aboutissants au mieux possible. Donc c'est un sacré challenge parce que la science, elle progresse tous les jours, tous les jours, tous les jours, elle se complexifie tous les jours, et on s'en rend bien compte d'ailleurs avec les problématiques qui nous touchent tous les jours aussi, parce que c'est pas si simple.
Est-ce que pour faire de la médiation autour d'un sujet, il faut forcément en être spécialiste ?
Alors non, et je dirais même que c'est quasiment impossible parce qu'un médiateur, dans ce cas-là, ou une médiatrice, il devrait être spécialiste d'absolument tous les sujets, ce qui n'est pas possible, justement. Donc non, par contre, avoir une certaine forme de connaissance scientifique, ou en tout cas connaître un petit peu la façon dont ça se passe, ça dépanne quand même beaucoup.
Et est-ce que tu peux revenir sur la création de ce projet avec l'université et pourquoi avoir fait appel aux jeunes chercheurs et chercheuses ? Je ne sais plus parler.
Alors, le fait de faire appel à des jeunes chercheurs et des jeunes chercheuses, donc plutôt, on va dire, ce qu'on appelle des doctorants et des doctorantes, donc des personnes qui sont en cours de thèse, moi, l'idée, c'était un petit peu, en tout cas, la volonté, c'était de les faire parler aussi, parce que c'est chouette d'entendre des chercheurs et des chercheuses expliquer leurs recherches, mais on oublie souvent eh bien, que derrière un chercheur, derrière une chercheuse, il y a aussi des étudiants, des étudiantes qui travaillent, qui font avancer leurs recherches aussi. Et ce sont des personnes qui ont énormément de choses à dire aussi, qui sont vraiment passionnantes. Et là, je pense que pour ces tables rondes, on devrait avoir des sujets vraiment assez intéressants. Ouais.
Et comment s'est passée comment s'est déroulée la collaboration entre donc, le laboratoire EBI, les chercheurs et toi avec Vaga Science ?
Eh bien, en fait, il y a une certaine facilité, car moi-même, je suis un ancien du laboratoire EBI, du coup.
Pardon.
C'est pas grave, ils t'en voudront pas. Et donc, les connexions étaient déjà faites, et j'ai aussi l'avantage, moi, d'assez bien connaître leur sujet de recherche. Moi, j'avais soutenu ma thèse dans ce laboratoire en 2017, donc ça remonte un petit peu maintenant, mais on va dire que c'est un petit peu comme ça que les connexions se sont faites et se sont facilitées. Et pour moi, qui suis désormais dans le monde de la médiation scientifique, c'est un petit avantage de travailler avec ce laboratoire, vu que je connais déjà assez bien les thématiques, c'est plus simple pour moi, on va dire.
L'appel à projet s'est fini il y a un an déjà, est-ce que vous avez eu beaucoup de retours ?
Alors, pour l'instant, on n'a pas encore eu de retour, puisqu'on n'a pas encore fait les tables rondes, parce qu'effectivement, maintenant l'appel à projet il a été conclu effectivement fin d'année, mais il couvre toute l'année 2023 en cours. Donc j'espère qu'on aura des bons retours, on va dire que pour l'instant les gens à qui j'en ai parlé étaient assez enthousiastes, on va dire, assez curieux aussi. On va voir ce que ça va donner réellement.
Oui, il va y avoir deux tables rondes qui sont organisées le 17 et le 21 novembre. Quels sont les thèmes et comment ils ont été choisis ?
Alors la table ronde du vendredi 17, ça porte sur le changement climatique et la santé. Donc le lien, on va dire, entre... qu'est-ce qui se passe dans notre environnement et quelles sont les conséquences sur notre santé et inversement aussi. Donc, quelles sont les conséquences des systèmes de soins, des systèmes de santé sur l'environnement, car ça a aussi un impact environnemental. Donc, c'est un petit peu dans le concept de ce que l'on appelle maintenant le One Health, la santé unique, donc le lien entre la santé environnementale, animale et la santé humaine. Pour la seconde table ronde, là, on va vraiment partir dans le plein cœur du sujet du laboratoire. C'est une table ronde qui va s'intituler « Tisser des liens dans le monde vivant, symbiose, parasitisme, qui s'inscrivent dans la toile de la vie ». Donc là, l'idée, ça va être un petit peu de balayer tout le spectre des interactions du vivant, qui sont notamment étudiées au laboratoire EBI, donc qui va de ce qu'on appelle le parasitisme, donc un organisme qui va profiter d'un autre pour son propre profit, à ce qu'on va appeler la symbiose mutualiste, ou... sans être dans un monde de bisounours, on va dire que ce sont les organismes qui, entre eux, eh bien, vont collaborer pour chacun se développer davantage.
Tu l'as dit, la première table ronde rejoint un sujet d'actualité, est-ce que c'est l'urgence climatique et la santé. Est-ce que dans la médiation scientifique, ça peut s'accompagner d'une action de sensibilisation?
Alors oui, tout à fait. Enfin, ça peut même s'en appliquer assez souvent. Je dirais même que c'est un sujet qui actuellement est extrêmement utilisé, extrêmement mis en avant dans le domaine de la médiation scientifique. Je vais prendre un exemple. C'est dans le cadre d'un appel à projet proposé par l'Espace Mendès France, donc l'Espace Mendès France qui est un centre de diffusion de la culture scientifique, qui proposait cette année un appel à projet sur One Health, une seule santé, donc encore une fois le lien entre la santé environnementale, animale et humaine, car on se rend compte qu'il y a de plus en plus qu'il y a des liens dans tout ça, et que abîmer notre environnement, c'est potentiellement aussi abîmer notre santé derrière aussi.
On peut avoir tendance à considérer que les sciences comme la biologie sont très obscures pour le commun des mortels et les littéraires. Et selon toi, est-ce qu'il y a des défis ou des difficultés particulières à rendre les sciences dites dures accessibles au public non spécialiste?
Oui, parce que souvent, en fait, ce sont des problématiques qui sont encore une fois assez complexes, qui demandent de maîtriser pas mal de concepts différents. On l'a très bien vu avec finalement la crise du Covid, hein, où ça a été très compliqué de faire comprendre, comment fonctionnent les vaccins, qu'est-ce que c'était que ce virus aussi. Virus, c'est un mot qui fait très peur aussi, alors que moi, le biologiste que je suis, il ne me fait pas si peur que ça, en fait. Qu'est-ce que c'est qu'un vaccin à ARN? Pareil, ce sont des choses qui sont assez techniques, assez complexes. Et là, pour le coup, il y a de vraies difficultés. Je dirais que si je devais prendre, moi, par exemple, en tant que médiateur, le temps d'expliquer c'est quoi l'ARN, il me faut quelque chose comme 30 minutes, pour être sûr que la personne en face de moi ait bien compris ce que c'est. Donc, oui, c'est pas évident.
Est-ce qu'on peut parler de vulgarisation scientifique ou est-ce que c'est un terme que tu n'aimes pas? Je sais que c'est des médiateurs qui n'aiment pas qu'on dise ça. Est-ce qu'il y a une différence entre médiation et vulgarisation?
Pas du tout, non. Et alors moi, je serais même plutôt dans l'autre camp. Moi, je préfère le terme vulgarisateur parce que ça vient du mot vulgare, qui veut dire commun, en fait. Et c'est rendre commun les choses, en fait. Donc, dans la nature même du terme, je préfère le terme vulgarisateur, même si c'est peut être considéré comme vulgaire. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais c'est exactement la même chose, la vulgarisation et la médiation. On parle de plus en plus maintenant de médiation, effectivement, parce que le terme passe mieux.
Et donc du coup, est-ce que c'est quoi une bonne, entre guillemets, médiation scientifique? Quelles sont les caractéristiques pour dire qu'elle est réussie? Comment c'est reçu par le public? Ça fait beaucoup de questions en une seule, je suis désolée.
Et pourtant, tout est lié. On va dire qu'une bonne médiation, je n'en suis pas sûr, je pense qu'à la fin, au moins, il y a des personnes qui ont un petit peu compris ce qui s'est passé. On s'en rend un tout petit peu compte quand on a en fait des questions un petit peu après ou même pendant. Finalement, ces questions montrent qu'il y a eu de l'intérêt de susciter. Et il y a aucune question qui est idiote là-dedans. La seule question idiote, c'est celle qui n'est pas posée. Et je dirais que ça, c'est un bon indice là-dessus. Après, une bonne médiation, je dirais que quand les gens sortent au moins avec le sourire et pas l'air trop interloqué, c'est qu'on a réussi quelque chose quand même.
Est-ce qu'il y a il y a forcément une différence avec le métier de professeur, mais quelles sont-elles?
La contrainte horaire, la gestion des étudiants, par exemple. Oui, non, on est sur des aspects des métiers qui ne sont pas tout à fait les mêmes, effectivement, parce qu'il n'y a pas les mêmes objectifs, en fait, non plus, derrière. Parce que derrière le côté professoral, il y a le côté institutionnel qui se cache. Dans le côté médiation, c'est possible. Moi, par exemple, ce n'est pas mon cas, étant indépendant. On ne cherche pas forcément à viser les mêmes publics exactement non plus. Et on n'a pas les mêmes... Moi, à la fin, je note personne. Je ne fais pas d'évaluation. En tout cas, j'essaye. Mais on n'utilise pas tout à fait les mêmes méthodes non plus.
C'était mes profs en master qui nous en avaient parlé que... c'était pas plus facile entre très très gros guillemets, parenthèses, crochets, tout ce que tu veux, parce que le public qui vient à des conférences ou des tables rondes de médiation scientifique, par exemple, est intéressé alors que des élèves en classe ne le sont pas forcément. Est-ce que dans ce sens-là, c'est plus simple ou pas?
Tout à fait. Là, ça c'est une évidence, même si dans le côté professoral, quelque part, pour avoir donné des enseignements à la fac aussi, on a cette liberté, entre guillemets, de dire aux étudiants, si vous souhaitez partir, la porte elle est ouverte, vous êtes grand, vous êtes adulte. Ce qui n'est pas le cas au collège et au lycée, bien entendu. Hein. Mais effectivement, au moins dans ce cadre-là, c'est du volontariat pur. Si les gens ils veulent venir, ils viennent. S'ils ne veulent pas venir, ils ne viennent pas. Alors qu'en cours, techniquement, on est censé venir. Et le côté obligatoire rend les choses forcément moins sexy aussi.
Est-ce que toute la vague de médiation, ça Ça peut aussi, moi, c'est par là que j'avais connu, c'est par YouTube et tous les vulgarisateurs historiques, scientifiques. Je ne vais pas citer de nom parce que ça va faire de la pub.
Oui.
Mais est-ce que ça a commencé par ce genre de médias et ensuite ça s'est développé dans le monde universitaire ou est-ce que c'est croisé ?
Je pense que c'est croisé hein, et je dirais que l'aspect de la médiation scientifique sur YouTube, il accroît en même temps que YouTube aussi tout simplement hein, comme support et comme média. Je dirais aussi, moi typiquement la médiation scientifique, j'ai découvert ça étant gamin avec C'est pas sorcier. Ça je peux faire la pub, c'est fini normalement. voilà qui reste pour moi encore et toujours une référence maintenant. C'est pas sorcier, ça a commencé avant YouTube, par exemple. Et il y avait encore des choses avant. Je pourrais citer à l'époque les frères Bogdanov qui faisaient encore de la médiation dans les années 80. La médiation, c'est, je dirais même que ça a démarré presque 19e siècle avec ce qu'on a appelé les démonstrateurs, les personnes qui venaient dans les expositions universelles pour faire des expériences et en fait chercher des financements aussi et se faire payer par des mécènes derrière.
Ça va être bientôt terminé. Donc les deux petites dernières questions.
Yes.
Pourquoi avoir choisi de faire de la médiation scientifique malgré tous les défis que ça pose ?
Alors moi, ça a été un petit peu un choix, on va dire, c'est un choix personnel qui est un petit peu issu de la crise du Covid, hein, qui nous a pas mal tous remis en question. Moi, j'ai travaillé 7 ans sur l'ARN messager, par exemple. Quand j'ai entendu ce que j'ai entendu et que j'ai vu ce que j'ai vu aux informations pendant l'époque, je me suis arraché quelques cheveux, donc c'est bien, j'en ai beaucoup, mais bref. Donc ça a été un petit peu, ce choix s'est porté un petit peu de façon à dire, mais pourquoi est-ce que tu produis de la science où finalement personne ne sait ce que tu produis et personne ne sait ce qui ressort ? Y a peut-être moyen de la diffuser, en fait, c'est peut-être un enjeu qui est assez important. En tout cas, moi, je trouve que c'est un enjeu qui est important. La science encore, je trouve très inaccessible par rapport à la dose de connaissances qu'on a pour les gens.
Donc si vous voulez participer et voir comment on rend la science accessible, rendez-vous. Donc c'est où précisément les tables rondes ? Pardon, je suis mauvaise journaliste, j'ai pas travaillé.
Alors vendredi 17, c'est à 13h30 à l'amphi Comé d'Amiens, donc ça c'est sur la fac de médecine. Et le mardi 21 novembre, ça sera à 17h30 à l'amphi Carbonnier, donc là c'est en centre-ville, juste à côté de la place du marché.
Merci beaucoup.
Merci à toi.